Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Alexis Bouchard, il est secrétaire national des jeunes socialistes, il est en direct avec nous ce matin, je l'en remercie, bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon, bonjour à tous et merci pour votre invitation.
Eh bien on va parler de politique, figurez-vous, comme on le fait chaque matin sur l'antenne de Bretagne 5, il y a beaucoup d'actualités politiques en ce moment, avec cette campagne des européennes qui se lance, j'allais presque dire enfin, parce qu'on avait un démarrage un peu long, voilà, il y a une tête de liste au Parti Socialiste, on va en parler, une campagne européenne qui arrive dans un contexte assez tendu, sur fond de retour, alors j'allais dire de retour en tout cas sur le devant de l'actualité du conflit en Ukraine avec les propos de Emmanuel Macron, on va en parler, et puis de grandes tensions dans le pays. Alors je passe juste un petit message de service, il y a votre téléphone qu'on entend, voilà s'il vous plaît, juste l'éloigner un tout petit peu, voilà ça c'est pour éviter qu'on ait des petits parasites sur le micro. Voilà. Donc je reviens à cette campagne européenne qui démarre dans un contexte évidemment un peu compliqué.
Oui, vous l'avez dit, la campagne des élections européennes arrive enfin. Les socialistes européens étaient ce week-end dernier à Rome pour le congrès, pour signer et acter ce qu'on appelle chez nous le manifesto, qui est le programme commun du Parti Socialiste Européen, partagé par les partis sociodémocrates, socialistes et travaillistes européens, avec des combats communs. On avait une délégation assez large du Parti Socialiste Français qui était présente sur place, avec notamment notre tête de liste Raphaël Glucksmann, et j'étais hier avec lui, les jeunes socialistes, en réunion hier soir, et c'est ce qui ressortait le plus. Les jeunes, les militants ont envie d'aller sur le terrain, ont envie, ça y est, de distribuer des tracts, d'aller sur les marchés, devant les gares, pour parler de ce manifesto, parler de notre programme pour faire basculer l'Europe à gauche. Nous avons plein de propositions pour faire en sorte que les gens ont de meilleures conditions de revenus, ont de meilleures conditions de vie, et ce, dans une planète, dans un continent respirable, en paix et toujours plus démocratique. Et donc, nous n'avons qu'une hâte, c'est d'effectivement commencer au plus vite cette campagne. Elle arrive, nous sommes prêts, nous avons une tête de liste Raphaël Glucksmann, une équipe rajeunie, féminisée et diverse. Et c'est heureux, enthousiaste que nous allons faire campagne pour challenger le match Attal-Bardella qui est promis comme le seul unique possible pour ces élections européennes. Moi, je prends toujours des pincettes quand je regarde les sondages. Effectivement, l'extrême droite caracole toujours en tête. Mmh. Mais enfin, Raphaël Glucksmann et les socialistes parviennent à challenger, j'allais dire, l'imposture Valérie Hayé, cette candidature macroniste sortie de nulle part pour un petit peu sauver la mise peut-être d'une majorité présidentielle à la peine dans l'explication de ses propositions, mais aussi dans son bilan assez catastrophique en matière européenne. Bref, nous allons challenger ce match. Nous sommes à quelques points derrière les sondages de Valérie Hayé et l'objectif désormais, c'est de la dépasser, de challenger Jordan Bardella qui caracole en tête.
Alors justement, beaucoup de jeunes, on en avait parlé ici, hein, on rejoint le Rassemblement National, on voit un parti socialiste qui se rajeunit. Alors il ne s'agit pas là encore de faire du jeunisme, mais voilà, il y a une génération qui passe, une autre qui arrive. Est-ce que justement, les nouvelles idées, la diversité des femmes, hein, vous en parliez à l'instant Alexis Bouchard, et justement ces nouvelles idées portées par cette jeunesse peuvent remettre peut-être en selle, on pourrait le dire comme ça, hein, pardonnez-moi, mais le Parti Socialiste qui avait été un peu absent, en tout cas un peu sous les radars ces temps derniers.
Oui, bien sûr, alors ça ne concerne pas que le Parti Socialiste, et heureusement, j'ai envie de dire que les élections européennes, parce qu'on voit notamment au travers des têtes de liste et des listes qui se dévoilent peu à peu auprès de chacun des partis, que des profils de jeunes émergent, et j'entendais ces derniers jours une expression qui m'a fait sourire, qui disait, et ça venait d'une personne relativement âgée, interrogée au micro d'une jeune, je ne sais plus quelle chaîne, qu'il valait mieux des jeunes compétents que des vieux incompétents. ça, c'est pas pour faire du jeunisme, disons, mais c'est toujours bien d'avoir, disons, le pied à l'étrier, d'être à l'avant-garde aussi de ce que peut porter la jeunesse et d'être au plus près des préoccupations, et des enjeux qui concernent la jeunesse. Nous, on est la génération Covid, celle qui a connu, les cours à distance, le décrochage scolaire et notamment dans les études supérieures qui a grimpé en flèche depuis 2020. Cette génération qui est obligée de travailler à côté de ses études pour pouvoir subvenir à ses besoins, et c'est complètement scandaleux dans la mesure où pour pouvoir étudier, on doit être pleinement, notre esprit doit être pleinement consacré, disons, à cette tâche qui est celle d'étudier, qui n'est pas une tâche simple, et devoir se préoccuper toujours de ce que l'on a sur le porte-monnaie simplement pour pouvoir manger et répondre à des besoins élémentaires, c'est assez difficile pour se projeter dans la vie, avoir des projets et pouvoir s'élever culturellement, intellectuellement, s'émanciper dans notre esprit même, dans notre conscience même. Et donc voilà, c'est, je trouve toujours très bien que les partis en général voilà, puissent aussi promouvoir des profils incarnant cette jeunesse et cette génération qui est plus que jamais précarisée aujourd'hui. Et le Parti Socialiste en tête fait émerger ces profils et dans des positions éligibles, bien qu'heureusement. Moi, je suis assez fier de voir ma présidente des Jeunes Socialistes, Emma Rafovitch, en bonne position pour pouvoir être élue eurodéputée le 9 juin prochain. Et c'est important de se mobiliser en masse pour pouvoir aussi faire élire cette jeunesse progressiste socialiste qui va pouvoir porter les combats de la jeunesse au Parlement européen. Il y a aussi d'autres profils. Je pense à Chloé Ridel, notre porte-parole et militante éco-socialiste, à Aurore Laluc, notre camarade de Place Publique, le mouvement de Raphaël Clouchet, notre tête de liste. Bref, toute cette jeunesse est représentée, bien représentée au Parti Socialiste et partout ailleurs dans les partis, heureusement. Et ça n'engage que de bons débats à la suite dans les médias, dans les prochaines semaines. On espère que
voilà, y aura des
voir
débats.
La jeunesse, voilà.
Il y aura des débats. Et sur l'antenne de Bretagne 5, d'ailleurs, des débats avec la jeunesse, évidemment. On a ce contexte aujourd'hui, très compliqué, hein, j'y faisais allusion en démarrant cet entretien, contexte de guerre en Ukraine, de propos aussi qui ont été tenus par Emmanuel Macron, qui ont eu une résonance justement là encore avec la jeunesse française. Faut-il aller se battre pour l'Ukraine, puisque Emmanuel Macron a laissé entendre que au-delà de la livraison d'armes, eh bien peut-être qu'il faudrait penser à aller se battre en Ukraine et envoyer des troupes au sol. Est-ce que pour vous ce sont des propos inconscients ?
Ce sont des propos à prendre en tout cas avec des pincettes. Emmanuel Macron a raison de dire qu'il faut un sursaut sur ce point, en tout cas sur les aides que l'on peut apporter en termes financiers et notamment de livraison d'armes à l'Ukraine et de soutien à la résistance ukrainienne face à ce qui devrait ne pas faire polémique, c'est-à-dire soutenir la lutte antifasciste et la lutte contre des mouvements réactionnaires d'extrême droite soutenus par la Russie, notamment en Ukraine. Pour autant, envoyer des troupes en Ukraine relève, je ne veux pas dire de l'erreur, mais en tout cas, il faut pouvoir en discuter, il faut pouvoir avoir un débat au Parlement serein, pondéré, avec toutes les informations dont nous ne disposons pas nous-mêmes, nous militants, citoyens, pour pouvoir parler sur ce sujet ô combien complexe, aussi bien qu'important. Pour autant, il nous concerne, et ce n'est pas inutile que de appeler à solliciter un débat au Parlement pour que tous les partis, tous les groupes parlementaires puissent aussi s'exprimer et avoir une vue d'ensemble sur la situation et le conflit et voir s'il est judicieux d'apporter peut-être plus de moyens pour soutenir la résistance ukrainienne. Nous ne perdons pas de vue ce fil, cet objectif. Pour autant, il faut être très précautionneux sur l'envoi des troupes françaises en Ukraine. Moi, j'appelle au débat, nous appelons au débat, mais en tout cas, nous ne devons pas minimiser et surtout, nous devons toujours augmenter notre soutien à la résistance ukrainienne, que ce soit dans la livraison d'armes, en tout cas, et les aides financières.
Alors, le président de la République a reçu les anciens présidents de la République. Il va recevoir également les différents représentants des partis politiques français pour discuter de cette situation, alors qu'on a senti quand même que ça n'avait pas emporté l'adhésion auprès de nos partenaires et de nos alliés européens et même au-delà, puisque les États-Unis ont dit que voilà, eux, c'était pas l'option qui avait été choisie de cet envoi de troupes au sol. Est-ce qu'on s'est isolé finalement quelque part ?
Bonne question. Est-ce qu'on s'est isolé ? Moi, je ne l'espère pas pour autant. Nous, on espère en tout cas que la solidarité européenne va pouvoir faire son œuvre et va pouvoir être promue. Par contre, effectivement, les propos d'Emmanuel Macron, quand ils sont, je me répète, mais qu'ils ne sont pas issus de débats, alors que j'ai parlé du débat parlementaire, mais ça pourrait être le cas aussi des débats avec les chefs, et les chefs de gouvernement et d'État européens, c'est un peu des fois des propositions qui sont amenées sur la table sans concertation, et effectivement, les alliés sont un peu pris au dépourvu quand il s'agit de devoir prendre des décisions importantes sur des sujets complexes. On peut comprendre que du coup, Emmanuel Macron se sente un petit peu isolé, ça a été le cas dernièrement, puisque Vladimir Poutine l'a rappelé à l'ordre, les États-Unis l'ont rappelé à l'ordre, enfin bref, il est dans une situation tout à fait assez indélicate. Il faut plus de concertation, il faut plus, nous ne sommes pas, Emmanuel Macron n'est pas le saint sauveur de l'Europe et du monde, il va falloir qu'il s'attelle à discuter avec les partenaires européens, les alliés, bref, faire en sorte que aussi nous ayons un discours clair, à la fois, j'allais dire, pour... je veux pas dire faire peur, mais en tout cas disons remettre la Russie à sa place, mais surtout pour avoir une bonne image et surtout disons un discours clair vis-à-vis de l'Ukraine et des Ukrainiens qui résistent et qui attendent beaucoup de nous, de l'Europe, de ses alliés pour pouvoir les soutenir et pouvoir faire face à l'invasion de la Russie en Ukraine. Bref, c'est un peu... il laisse tout le monde dans le flou, à la fois ceux qui se battent et ceux qui pourraient potentiellement aider ceux qui se battent.
Avec l'Ukraine aujourd'hui qui n'exclut pas d'ailleurs de perdre la guerre, hein, le mot a été lancé et ça fait très peur, en tout cas du côté de la Moldavie également, où on voit qu'il y a beaucoup de problèmes politiques avec la Russie. Plus largement, on est dans un contexte géopolitique qui bouge beaucoup, contexte géopolitique qui va aussi... continuer à évoluer, puisque aux États-Unis, on parlait des États-Unis à l'instant, eh bien, il y a le possible retour d'un certain Donald Trump. Alors, j'imagine que dans les rangs du Parti socialiste, ça inquiète aussi ce retour possible.
Ça inquiète, oui, parce que Donald Trump, on l'a vu à l'œuvre, on le voit aussi quand il est en campagne permanente sur les réseaux sociaux et sur le terrain chez lui, enfin chez lui, je veux dire aux États-Unis d'Amérique, à faire des campagnes et disons des déclarations à coups de fausses informations, de mensonges et de contre-vérités.
Il a une puissance sur les réseaux sociaux, hein. C'est un peu le bulldozer, hein, faut le dire.
Il a une puissance, oui, alors, un petit peu limitée, parce qu'en réalité, il a ses propres réseaux sociaux et ses propres médias pour, disons, avancer ses idées et promouvoir, disons, ses mensonges à tout le monde. Pour autant, voilà, nous on reste évidemment très vigilants à ce qui se passe aux États-Unis, mais j'ai envie de dire... voilà, Donald Trump, effectivement, nous le combattons, nous sommes, enfin, je voudrais parler juste de, on a vu, disons, son bilan sur les questions féministes, je voulais un peu l'évoquer et faire la transition.
On va en parler de l'IVG tout à l'heure, hein, très important.
On voit bien des pays en Europe, mais aussi aux États-Unis pour faire la transition, qui remettent en cause aussi les droits des femmes à la veille aujourd'hui, puisqu'on est le 7 mars, et demain c'est la journée internationale des droits des femmes, à l'heure où la France est le premier pays à avoir inscrit dans sa constitution la possibilité, la liberté, disons, de recourir à l'IVG 50 ans après la loi Veil, quel symbole et quelle consécration pour la préservation et la garantie de ce droit fondamental. Il faut pouvoir continuer le combat, en tout cas nous c'est ce que les socialistes revendiquons, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, parce qu'il y a de nombreuses femmes, de nombreux collectifs féministes et de collectifs d'associations, d'ONG qui combattent partout dans le monde pour pouvoir promouvoir et garantir à chacune, à chacun de pouvoir vivre et exprimer sa liberté, j'allais dire, infinie, une et indivisible, mais voilà, pour l'expression, mais en tout cas, effectivement, l'arrivée de Donald Trump nous préoccupe aux États-Unis parce qu'elle remet en cause les droits, parce qu'elle remet en cause la dignité des travailleurs, bref, et nous serons très attentifs, et je ne doute pas que nos partenaires du Parti social-démocrate ou socialiste américain, de mémoire, mais qui est allié notamment de Bernie Sanders et du Parti démocrate, puissent contrer et porter aussi de nombreuses propositions pour contrer ce personnage nauséabond au programme plus que douteux.
Alors avec néanmoins un électorat populaire, là aussi, qui se tourne vers Donald Trump. Il ne s'agit pas de dire que les Américains font le mauvais choix, après c'est leur choix, mais on voit cet électorat populaire, parfois aussi hispanique, hein, qui tente à vouloir aller vers Donald Trump, partant du principe qu'ils ont eu beaucoup d'aides sociales qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Alors voilà, est-ce que le président actuel, Joe Biden, s'est trompé sur l'affaire sociale?
Moi je suis assez mal placé pour parler de politique états-unienne, pour être honnête, mais ce que je peux dire, c'est que Joe Biden, c'est pas le plus socialiste.
Vous avez compris que je vais rebondir sur la politique française.
Bien sûr, mais je vais y venir, justement. Joe Biden est issu d'un parti libéral. En réalité, le Parti démocrate n'est pas un parti de gauche. On peut pas l'assimiler à la gauche française, ce n'est pas du tout la même chose. On peut l'assimiler, par contre, à Emmanuel Macron, et là, c'est la transition toute trouvée, et des libéraux français et européens qui, effectivement,
mes notes.
Voilà. Non, pas du tout, mais mettent en cause effectivement toutes les aides sociales, les acquis sociaux obtenus de haute lutte par la gauche tout au long de notre histoire, et notamment là je pense à la réforme de l'assurance chômage qui va arriver dans les prochaines semaines au Parlement, qui va précariser encore une fois les chômeurs et va les obliger, disons, à avoir des activités pour pouvoir prétendre à leurs droits, avec des obligations qui vont aussi disons s'accélérer et s'accroître pour eux. Bref, toute cette logique en fait libérale et de précarisation des plus pauvres, rendre les faibles encore plus faibles et rendre les riches encore plus riches, ça ne fait qu'accroître effectivement la défiance vis-à-vis des partis politiques au pouvoir, dont les libéraux, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Europe, et ça fait effectivement fructifier et monter les partis populistes, notamment d'extrême droite, que ce soit Donald Trump aux États-Unis, Marine Le Pen, Jordan Bardella en France, mais aussi tous les partis d'extrême droite partout en Europe. Et c'est là où la gauche a une responsabilité immense, c'est-à-dire remettre de la pondération dans le débat, remettre des propositions de bon sens et concrètes pour les gens, les travailleurs, ceux qui sont précaires, les étudiants, les jeunes, bref, les retraités, les agriculteurs, les artisans, les petits entrepreneurs, bref, on peut tous les citer, qui leur parler tout simplement, et surtout faire des propositions qui leur parlent, qui se préoccupent véritablement de ce qu'ils peuvent gagner, de ce qu'ils ont sur le porte-monnaie en termes de pouvoir d'achat, en termes de possibilité d'accéder à des services publics, en termes d'accès à la santé, bref, tout plein de sujets. Et c'est là que nous, on a une responsabilité, qu'on a des propositions, notamment pour les élections européennes, pour y faire face et challenger l'extrême droite en Europe.
Alors, il y a eu ces propos de Bruno Le Maire, hein, je rebondis sur vos propos, Alexis Bouchard, ces propos de Bruno Le Maire hier, qui annonce une loi de finances rectificative avant l'été, et une reprise en main, c'est le terme, hein, un peu fort, une reprise en main de l'assurance chômage. Le gouvernement doit trouver encore 12 milliards en 2025, ça va jusqu'à 50 milliards, alors que le déficit sera au-delà des 4,9% en 2023 en raison de moindres recettes fiscales. Voilà ce que nous dit le gouvernement. Et là encore, ça rejoint le fait que l'assurance chômage risque d'être, allez, on va mettre les termes, mais nationalisé finalement.
Oui, et ça me fait toujours sourire d'entendre Bruno Le Maire vouloir chercher de l'argent quand il y en a en fait un peu partout. Les libéraux, je le disais, sont ceux qui prônent la réduction d'impôts et pour pouvoir promouvoir et faire en sorte que la logique de marché soit une universelle et indétrônable, l'argent existe. Il faut chercher dans les bonnes poches, il faut s'attaquer, il faut remettre au goût du jour l'idée même qui est celle de l'impôt, même si elle n'est pas nécessairement populaire. Mais
L'ISF, il faut le remettre en place.
J'allais en venir, l'ISF, mais aussi s'attaquer à la fraude fiscale, notamment des grands actionnaires, des grandes entreprises, des grandes sociétés qui passent toujours sous le tapis, qui ne payent pas tous leurs impôts dans notre pays. La fraude fiscale, ça représente 80 milliards à 120 milliards d'euros dans notre pays, ce qui est énorme. Lui cherche, vous disiez, 50 milliards
en tout, hein, en fait.
S'attaquer à la fraude fiscale, y mettre un petit peu de moyens, c'est avoir la moitié pour pouvoir combler ce déficit et potentiellement financer la retraite à 60 ans. Bref, c'est pouvoir financer des propositions concrètes, des choses concrètes qui peuvent changer la vie des gens et surtout de ceux qui le méritent, des travailleurs qui ont travaillé toute leur vie survie pour pouvoir s'autoriser quelques années de répit avant la mort. C'est le strict minimum que l'on pourrait demander dans une vie pour pouvoir profiter de ses petits-enfants, pour pouvoir aller au musée, pour pouvoir découvrir cette si belle région qu'est la Bretagne, pour pouvoir voyager partout dans le monde. Bref, c'est assez réducteur et toujours décourageant que de voir Bruno Le Maire devoir chercher de l'argent là où il n'y en a plus finalement, puisqu'on veut le chercher auprès de ceux qui sont plus précaires, encore une fois, les chômeurs, aussi les petits travailleurs. Quand je dis qu'il faut le remettre l'impôt au goût du jour, c'est bien pour les plus riches et pour ceux qui le peuvent et ceux qui font des profits démesuré vis-à-vis de ceux qui travaillent, et notamment les actionnaires. Je veux pas me répéter, mais c'est vraiment ça le point fondamental. Remettre, disons, c'est une proposition de longue date de la gauche, mais allonger, disons, l'échelle de en termes d'impôts, faire en sorte que les plus pauvres qui payent
ne paient moins, ou en tout cas pas du tout,
payent déjà des impôts, n'en payent pas, mais surtout que des personnes plus riches en payent plus. C'est une proposition de bon sens et c'est ce que l'on porte depuis toujours.
Alors sur les ASS, on parle de valeur travail, alors que on sait que les publics touchés par les ASS sont souvent des travailleurs âgés qui ne retrouveront pas forcément un emploi facilement. On sait que ce sont aussi des gens parfois qui sont inaptes au travail, qui ne peuvent pas retrouver un travail. Est-ce qu'il y a une injustice sociale qui risque de déboucher sur de la colère, parce qu'aujourd'hui on voit que l'inflation ne diminue pas finalement, ou très peu, que les gens ont de plus en plus de mal à payer leur loyer, leur électricité, etc. Est-ce qu'une colère sociale violente peut arriver un jour en France ?
Une colère, les colères sociales, j'ai envie de dire, elles se succèdent et elles risquent de s'intensifier dans les prochaines années. On a vu notamment, ça fait de nombreuses années, on pourrait remonter très loin dans l'histoire, mais assez récemment avec les gilets jaunes depuis 2018, puis disons pendant les années Covid avec notamment la réforme de l'assurance chômage de 2019 qui avait suscité un grand émoi et de nombreuses mobilisations dans la rue, manifestations contre la réforme des retraites et la mise en place de la retraite à 64 ans. Bref, effectivement, si on continue de précariser les plus précaires et de rendre plus riches les plus riches au détriment d'une égalité et de la justice sociale la plus élémentaire, effectivement la colère sociale va évidemment s'accroître et on pourra voir de plus en plus de mouvances potentiellement extrémistes, de gens qui se radicalisent de plus en plus, mais ce n'est pas, disons, une volonté propre à eux-mêmes, c'est une conséquence d'années de précarisation, de promotion d'une logique libérale et d'un modèle capitaliste qui appauvrit les gens et qui les rend en colère, mais j'ai envie de dire légitimement, parce que quand il s'agit de pouvoir lutter pour pouvoir avoir quelques miettes dans son assiette, on ne sait pas de quoi nous serions capables si on était dans ce cas. Moi, je vous parliez notamment des emplois seniors et de la difficulté de trouver sur le marché de l'emploi des emplois, tout simplement pour les seniors, disons les gens qui arrivent près de l'âge de départ à la retraite. C'est le cas de mon papa, par exemple, qui a été longtemps ouvrier dans l'industrie agroalimentaire, qui, encore une fois, de par les logiques de marché, a subi, la fermeture de son usine parce que des grands patrons voulaient racheter au rabais une entreprise qui était pourtant productive. Bref, je passe les détails, mais il y a eu pour de nombreux de ses collègues, puisqu'il y en avait une centaine dans cette usine, de nombreuses difficultés et de la peur, du stress vis-à-vis des familles qui ne savaient pas de quoi l'avenir était fait et comment on allait pouvoir nourrir les gamins qui attendaient loin à la maison pour être nourris. C'est quand même assez difficile et incompréhensible que en France en 2024, il y a des situations où dans des familles on se pose des questions de comment on va manger à la fin du mois, alors que effectivement on avait un emploi, on était dans une usine productive, et là on se retrouve du jour au lendemain au chômage. Il y a une difficulté supplémentaire, c'est que les seniors ont souvent, en l'occurrence c'était le cas de mon papa, pour y revenir, il a certains diplômes, mais il y a toujours cette peur de devoir reprendre une formation à 55 ans. On n'est pas sûr de trouver déjà des formations et de pouvoir trouver un emploi qui accepte d'embaucher, disons, à un âge si vieux. Bref, il y a toujours cette peur de l'inconnu.
Avec des formations qui vont devenir payantes aujourd'hui.
Avec des formations qui vont devenir payantes avec l'assurance, la réforme du chômage. Bref, c'est un cercle vicieux sans fin. Et il faut casser cette logique.
L'impression, Alexis Bouchard, que le tableau que vous dressez, que l'on constate au jour le jour, c'est un pays qui se déclasse, la France. Alors, d'aucuns diront non, c'est du catastrophisme et autres, mais on parle de l'emploi, on parle du système social, on parle de l'hôpital et également de l'éducation aujourd'hui qui est bien malade. J'allais presque dire, si demain vous revenez aux affaires, le Parti Socialiste, vous allez avoir un travail énorme sur la planche.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'on est engagé en politique. Effectivement, je dresse un tableau noir, mais si je suis engagé, c'est parce que nous avons plein de propositions. Et je suis de gauche, je suis socialiste, je suis d'un naturel optimiste, j'ai souvent tendance à le rappeler assez souvent. Je veux dire, là on s'engage dans la campagne des élections européennes avec de nombreux sujets sur la table, et je vous disais un manifesto, un programme commun à tous les partis socialistes européens pour pouvoir remettre de la pondération et de la justice sociale et écologique partout en Europe. On est à 20 sièges de basculer et de faire basculer l'Europe de droite à gauche et de mettre en place enfin le socialisme écologique sur le continent. Nous avons plein de propositions en termes effectivement d'augmentation des salaires, de mise en place, parce que vous parliez de santé, ce n'est pas nécessairement une compétence première de l'Union européenne, mais ça va le devenir de plus en plus. Nous, on est pour la mise en place d'une sécurité sociale à l'échelle européenne. Nous sommes aussi pour la crise agricole, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer plus que ça le sujet,
mais elle est toujours là.
Je voulais juste citer, on a aussi plein de propositions pour sur le protectionnisme écologique et social pour protéger nos agriculteurs de la concurrence déloyale en mettant en place des clauses miroirs pour faire en sorte de ne pas importer des produits qui ne respectent pas nos normes sociales et écologiques sur notre continent, qui sont imposées à tous les agriculteurs, sur le respect des lois Egalim, la garantie d'une PAC écologique et sociale pour toutes et tous, qui, je le rappelle, n'a pas été votée par Renaissance, les Républicains et le Rassemblement National, la PAC libérale et dogmatique par les groupes de droite au Parlement européen. Nous, on est pour une PAC écologique et sociale qui promouvoie notamment les petites exploitations, l'agriculture bio et remettre, de l'égalité, de la justice sociale parmi tous les agriculteurs. Bref, tout plein de sujets. Et si je suis encore engagé, si on est aussi engagé, c'est parce qu'on a de nombreuses victoires que l'on arrive petit à petit, malgré que l'on soit dans l'opposition, à mettre en place et à faire avancer. Ce sont des victoires pour les Françaises et les Français. On a parlé lundi dernier de la constitutionnalisation de l'IVG. La semaine dernière encore, il y avait la niche parlementaire socialiste à l'Assemblée nationale, qui est le jour annuel où les socialistes peuvent déposer des propositions de loi. On a discuté de 5 propositions. Et elles ont été adoptées toutes les 5, donc c'est 5 victoires pour les Françaises et les Français sur des aides sur les factures d'électricité pour les artisans et les petites entreprises, sur la question de la pénurie des médicaments, sur la question des violences sexistes et sexuelles dans le sport, bref. Tout plein de sujets qui, petit à petit, malgré tout, nous laissent penser qu'il y a une lueur d'espoir quelque part, il y a une envie de gauche dans ce pays, et nous on va s'engager et continuer de se battre au Parlement, j'allais dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais comme au Parlement européen, pour faire en sorte de changer la vie des gens véritablement. Et c'est pour ça qu'avec Raphaël Glucksmann, les socialistes, le 9 juin prochain, il faut se mobiliser dans les urnes en masse.
Voilà, il faut aller voter déjà, aujourd'hui une grande abstention. Un dernier mot, peut-être un peu plus politique et qui va nous projeter en 2027. Il nous reste 2 minutes, me dit notre réalisateur. 2 minutes pour évoquer ce qui pourrait être le retour de François Hollande. Il y pense, dit-on.
Il y pense, ça le regarde, c'est très bien. Nous, ce qu'on va porter, en tout cas pour 2027, c'est la fin des élections européennes, le Parti Socialiste va appeler à des discussions avec les partis de gauche et notamment de la NUPES, qui a été un peu mise en veille depuis ces dernières semaines, pour pouvoir travailler sur un programme commun et sur réfléchir à des modalités de définition d'une candidature commune, des modalités d'une candidature commune qui puisse convenir à tous. Si François Hollande d'aventure a envie de s'y engager et d'être le candidat unique de la gauche en 2027, bonne chance à lui. Je ne crois pas que ce sera le cas. En tout cas, moi, je ne ferai pas campagne pour lui pour plein de raisons. Mais
je ne suis
pas sûr que nos partenaires de gauche aussi habituels et traditionnels puissent aussi accepter de se ranger derrière François Hollande en 2027. Rien ne l'empêche, évidemment, nous sommes en démocratie, de se présenter et de pouvoir porter des propositions s'il en a pour les Françaises et les Français. Peut-être il se mettra devant les les urnes, mais en tout cas ce sont les Françaises et les Français qui ont le dernier mot à la fin. En tous les cas, nous, dès les élections européennes, à la fin des élections européennes, on s'engage dans un processus d'union avec les partis de gauche, et l'idée c'est d'avoir en 2025 grand maximum un programme, une candidature commune pour pouvoir encore une fois challenger l'extrême droite et la droite en 2027 et gagner, changer la vie des gens.
Voilà, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Alexis Bouchard, secrétaire national des jeunes socialistes, qui était avec nous ce matin. Et on va poursuivre le débat, puisqu'on va faire quelques débats ici sur l'antenne de Bretagne 5 autour des élections européennes et des grands thèmes. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.